Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission consacrée aux marchés financiers et aux placements. À la une de l'actualité, la menace du variant Omicron peut-elle faire déraper la reprise? La Banque de France ce matin se veut rassurante. Les marchés financiers se reprennent après la forte baisse de vendredi. En revanche, l'OMS s'inquiète et relève son niveau d'alerte. On va y revenir largement avec Nicolas Dose tout à l'heure dans la polémique à 10h40 et avec les invités du face-à-face. Ce sera à partir de 11h. Quelques changements sur le marché de l'assurance emprunteur, davantage de flexibilité pour résilier, fin du questionnaire médical dans certains établissements bancaires. Est-ce le début d'un vaste mouvement ou tout simplement quelques gestes marketing? On en parlera avec Astrid Cousin, porte-parole du site Magnolia.fr. Elle sera en plateau avec moi tout à l'heure à 10h15. Et puis au sommaire également les nouvelles mesures fiscales qu'il faut mettre en place avant l'élection présidentielle ou avant la fin de l'année. On en parlera à 10h45. Et puis les questions-réponses, vous le savez, comme tous les matins, ce sera à partir de 11h45. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
La Bourse de Paris se reprend ce matin à l'ouverture après une baisse de pratiquement 5% vendredi. On va en parler avec Antoine Larigauderie depuis Euronext à la Défense. Bonjour Antoine, on retrouve un petit peu le sourire.
Je trouve un petit peu le sourire, mais disons que le rebond commence à devenir franchement filandreux. Hein. On était en hausse d'1,5% à l'ouverture et même en avant-marché, on avait des signaux vraiment positifs qui faisaient dire qu'est-ce que c'est que ce marché. On a quand même pris un coup de balai massif vendredi. Théoriquement, les marchés restent un petit peu groggy, hein, toujours quelques jours après ce genre de correction, surtout que là, ça arrivait sur un marché qui était sur des plus hauts historiques, avec des valeurs qui plafonnaient, point de vue valorisation. Donc, effectivement, on a joué les gros écarts vendredi et ça a provoqué une très forte baisse avec l'aggravation du climat sanitaire. Et puis les marchés repartaient billes en tête en avant-marché aujourd'hui. Là, ça se tasse quand même, hein, plus 0,6%. On est toujours en hausse, hein, 6783 points, mais les signaux sont moins positifs qu'en début de journée. Plus 0,89% pour l'Eurostoxx 50 et le DAX à Francfort, plus 0,51%. Alors attention, il y a beaucoup de volatilité, même si la volatilité fondamentale explicite est en baisse, notamment matérialisée par un indice VIX qui redescend du côté des 25 points, on était monté jusqu'à 28 en clôture. Vendredi, c'était la quatrième plus forte hausse jamais enregistrée en quotidien sur l'indice VIX. Et malgré tout, on a de gros volumes d'échanges, un peu plus de 850 millions d'euros d'actions négociées. Après la première heure de cotation sur le CAC 40, c'est beaucoup. Donc il y a énormément d'investisseurs qui, non seulement profitent de la très forte correction de vendredi pour rentrer à nouveau sur le marché sur de meilleurs cours, ça concerne évidemment certains segments qui ont beaucoup souffert, mais parallèlement, c'est pas dit, hein, il y a pas mal de titres à la baisse et qui handicapent un petit peu la capacité de rebond du CAC 40. Donc pour l'instant, plus 0,7%, on s'arrête à 6788 points. Les plus fortes hausses du moment, alors on revient sur l'immobilier commercial, hein, Unibail Rodamco Westfield qui gagne 2,9% à 60,18 €. On revient également sur l'énergie parce que parallèlement, le baril de Brent de Mer du Nord qui est tombé du côté des 70 $ vendredi, c'est bien redressé. On est du côté des 76, là, 75-70, 71,38 $ pour le baril de Brut Ligier américain. Donc Total Energy en profite pour gagner 1,7%, 41,22 €. Parallèlement, on a aussi une belle hausse de la techno, du secteur du luxe aussi, avec Hermès qui gagne 1,47% à 1627,50 €. Techno avec Capgemini qui gagne 1,55 € à 203,30 €. Des valeurs plus cycliques, plus industrielles avec ArcelorMittal qui gagne 1,7% à 24,68 €. Mais preuve que le marché reste quand même passablement secoué par l'aggravation du climat sanitaire. À noter la belle hausse d'Eurofin Scientifique qui gagne 1,4% à 115,30 €. C'est le meilleur des indicateurs, ça. Valneva, hein, plus 7% à 27,80 €. Puis à noter sur le SBF 120 qu'on revient pas mal sur les valeurs de la restauration collective qui ont vraiment suivi la purge du secteur du tourisme, du secteur du voyage. On a Elior qui regagne 3,2% à 5,78 € et Sodexo plus 3,76 €. Les titres à la baisse, Carrefour moins 0,7 à 15,36 €, Thalès moins 0,5 à 74,06 € ou encore Michelin moins 0,47 à 127,80 €. plus forte baisse du SBF 120, c'est Forcia, tout l'équipement automobile qui est en queue de peloton sur le SBF 120. Forcia moins 6,5, 37,70. Plastic Omnium moins 2,6, 21,56. Et Valeo moins 1,2, 25,25. Le CAC donc plus 0,9, ça y est, ça recommence à ressembler à une hausse assez sensible. 6801 points. Et l'euro 1,1275. Va vraiment falloir surveiller ce marché comme du lait sur le feu parce qu'il est passablement volatile.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi depuis Euronext. On reviendra sur les marchés tout à l'heure à 10h30.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Voilà, un petit coup d'œil, la Bourse de Paris qui se reprend donc après le décrochage de vendredi. On avait perdu 4,75% et on reviendra sur cette séance en cours tout à l'heure à 10h30. On va maintenant parler du groupe Laurent Perrier, fabricant de champagne. L'entreprise a publié vendredi une forte progression de son bénéfice semestriel, 207% de hausse par rapport à l'an dernier, 112% par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire. On va parler de tout ça avec Benjamin Rivière, gérant à la financière Tiepolo. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Publication qui est passée un petit peu en dessous des radars vendredi en raison évidemment de l'actualité sanitaire. Ça confirme en tout cas, j'imagine, votre intérêt pour la valeur.
Exactement, ça confirme notre intérêt pour la valeur. Donc rappel quand même pour vos auditeurs, donc Laurent Perrier, donc c'est un groupe champenois, donc familial, hein, il ne faut pas l'oublier, qui réalise 250 millions de chiffre d'affaires à peu près en année pleine et qui capitalise 600 millions d'euros. Donc évidemment, et comme vous l'avez dit, c'est un groupe qui a très fortement souffert de la crise sanitaire puisqu'une partie importante de ses ventes se font en hôtellerie et restauration. Hein, c'est pas forcément le champagne que vous allez acheter en supermarché. Et donc pourquoi est-ce que ces résultats ont été si bons? C'est parce qu'à la différence des autres acteurs du champagne, Laurent Perrier a depuis longtemps travaillé ses marques et sa gamme est nettement plus haut de gamme que les autres acteurs. Hein, à la fois parce qu'ils vendent plus de marques Laurent Perrier que d'autres marques, comme Oudinot et Jean Maire par exemple, qui sont des marques milieu de gamme, et puis parce qu'ils vendent plus de cuvées de prestige. Donc ces ventes de cuvées de prestige se font évidemment à meilleure rentabilité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter de Laurent Perrier aujourd'hui. Hein. On s'attendait à une forte remontée des résultats et du chiffre d'affaires après l'année 2020, donc marquée par la pandémie. Eh ben, on n'a pas été déçus. Hein. Le groupe a réussi quand même à faire progresser de 30% son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019, qu'on va prendre comme année de référence. Et ça, c'est le travail de cette montée en gamme, hein, puisque les volumes, évidemment, ne progressent pas, eux, de 30%. Voilà.
Cette marque... Oui, je vous en prie.
Oui, donc ça permet effectivement de faire progresser le résultat, parce que le résultat net qui augmente de 100%, effectivement, c'est bien, mais le cœur du réacteur, hein, le résultat opérationnel, lui, augmente de 80%, avec une marge qui ressort à 28%, alors qu'ils avaient l'habitude de faire 20%. Donc on a vu que dans cette crise, et à la sortie de cette crise, ils ont réussi à améliorer l'ensemble de leurs agrégats.
Quel est le potentiel, selon vous, sur la valeur? C'est un titre qui gagne pratiquement 33% depuis le début de l'année. L'objectif de cours moyen, le consensus de marché, est à 114,17€ exactement.
Tout à fait. Bah, écoutez, on sera quand même encore loin des niveaux de 2007-2008, hein, puisqu'on était monté pas loin des 140€. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on achète du Laurent Perrier, on n'achète pas une marque, hein, on achète aussi des stocks très importants de bouteilles, hein, qui dorment dans leur cave. On achète des hectares également. Ils ont plus de 100 hectares de vignes aujourd'hui en propre à eux. Et quand on sait qu'un hectare vaut à peu près 1 million d'euros, ça laisse quand même pas mal de valeur dans le groupe.
Merci beaucoup, Benjamin Rivière, gérant à la financière Tiepolo. On va maintenant s'intéresser à la macroéconomie.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Comment se porte le marché de l'emploi aux États-Unis? On connaîtra vendredi les chiffres du mois de novembre. Le consensus des prévisions est à 550 000 créations de postes hors secteur agricole. Et si cette prévision est confirmée, ce sera le chiffre le plus élevé depuis le mois d'août aux États-Unis. On va en parler avec Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF. Bonjour Bruno.
Bonjour.
En dessous de 500 000 créations de postes, ce serait considéré comme une publication décevante, c'est ça?
Pour le consensus, oui. Pour la réserve fédérale américaine, pas nécessairement, parce qu'ils regardent surtout les tendances, donc c'est pas simplement l'évolution sur un mois. Ce qui est important pour eux, maintenant qu'ils ont une inflation quand même qui est très élevée, on voit bien que ce qui va dicter leur choix de politique monétaire, c'est la convergence vers le plein emploi. me demandez pas exactement ce que c'est que le plein emploi en termes de niveau, parce que c'est un concept assez fluctuant. Mais disons, c'est revenir le plus proche possible de la situation qu'on avait avant la crise pandémique. Alors, beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y a encore un certain nombre de progrès qui restent à faire, mais au rythme où vont les choses, vous disiez, voilà, environ 500 000 créations d'emplois le mois dernier, il y a peut-être autant ce mois-ci, eh bien on va s'en rapprocher dans le courant de l'année 2022. Ça veut dire que pour la réserve fédérale américaine, ce qui la retenait encore jusque récemment dans sa démarche de normalisation monétaire, c'était quand même qu'il y avait toujours un certain doute sur le marché du travail. Si ce doute est levé, non seulement avec la publication de cette semaine, mais dans les prochaines publications, ça les incitera probablement à avancer peut-être un peu plus rapidement dans cette normalisation. Et ça veut dire d'abord accélérer le rythme de tapering. Donc ça, c'est le grand sujet qui se posera à la réunion de la Fed sur le 15 décembre, voilà, dans une quinzaine de jours.
On va le rappeler, hein, Bruno, c'est une publication importante, l'emploi aux États-Unis, puisqu'à la différence de la BCE qui ne s'occupe que de l'inflation, la Fed, elle, a un critère d'emploi dans son mandat.
Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment sur l'inflation. Bon, ils ont ils sont beaucoup trop haut, ça c'est clair. C'est pour ça qu'ils sont dans une situation extrêmement inconfortable. Alors, on a déjà, je crois, analysé en long et en large et en travers pourquoi ça dépassait beaucoup. Donc jusqu'à quelques semaines, quelques mois, ils pouvaient dire ouais, on dépasse de beaucoup d'un côté, mais on est très en deçà sur notre objectif, hein. Donc on est très au-dessus sur l'inflation, on est très en deçà sur l'emploi. Dans la mesure où l'inflation, bon, on sait que sur les mois d'hiver, hein, il n'y a pas beaucoup d'accalmie à attendre, hein. C'est plutôt une histoire. S'il y a accalmie, c'est plutôt une histoire pour le printemps prochain. Bon, mais il est évident que les fait converger vers leur objectif d'emploi est une incitation très forte à ajuster le réglage moteur. Pas forcément de manière hyper agressive au point de vouloir casser la reprise, hein, mais clairement en termes de calendrier et de rythme de réduction des achats d'actifs, ça, je pense que c'est un input très important dans leur réflexion pour la prochaine réunion. Ouais.
En Europe, on connaîtra les chiffres de l'inflation cette semaine. Publication dans l'après-midi en Allemagne, demain en France. On aura également demain les chiffres pour la zone euro pour le mois de novembre. L'inflation en rythme annuel devrait atteindre 4,4% contre 4,1% le mois dernier.
Alors ça, c'est pour la zone euro. L'Allemagne, on est plus haut. On a d'ailleurs quelques données régionales ce matin qui suggèrent qu'en Allemagne, on va passer allègrement la barre des 5. Bon, il y a des phénomènes, il y a des facteurs globaux, hein, qui poussent l'inflation dans tous les pays à la hausse. Il y a des effets de comparaison, évidemment, qui sont pas très sympathiques, parce que l'inflation, c'est toujours un phénomène qu'on regarde sur un an. Donc sur un an, forcément, lorsqu'on est en novembre 2021, c'est-à-dire une année quand même qui a été exceptionnelle en termes de reprise, on se compare avec novembre 2020, bon, qui était encore, voilà, on émergeait tout juste de la crise pandémique. Bon, et puis dans le cas de l'Allemagne, s'ajoute un certain nombre de chocs tout à fait spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet de notre discussion, mais ça fait que, effectivement, ça pique les yeux, hein, au mois de novembre, et surtout en Allemagne, où on sait qu'il y a une très grande sensibilité sur l'inflation. Bon, une inflation à 5%, peut-être 5,5%, il y a de quoi interpeller les observateurs et les banquiers centraux. La grande différence, je crois, dans la réflexion de la BCE par rapport à la réflexion de la Fed, c'est que chez nous, on n'a pas vraiment de signe de tension salariale forte et relativement générale. Voilà. Donc c'est ça qui, je crois, qui explique pour une très large partie pourquoi là où d'un côté de l'Atlantique, en Amérique, il y a un inconfort qui pousse vers l'action, chez nous il y a un inconfort qui est encore associé à une certaine patience et en tout cas la volonté de pas surréagir. Mais voilà, en tout cas, là aussi, on va avoir dans quelques jours une réunion de la Banque Centrale Européenne vers la mi-décembre. Bon, c'est clair que pour des banquiers centraux qui ont comme mandat de faire 2%, quand ponctuellement on est à 4,5%, c'est pas très agréable, quoi. Il faut quand même expliquer les choses et pourquoi on fait ceci ou on ne fait pas ceci en réaction à ce choc d'inflation.
Merci Bruno. Merci Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF. 10h passées de 20 minutes, on va parler immobilier à présent.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Quelques changements sur le marché de l'assurance emprunteur. On va en parler avec nos deux invités. Astrid Cousin, porte-parole du site magnolia.fr. Bonjour.
Bonjour.
Invité maison aussi.
Oui, j'allais dire, je ne suis pas invité, moi, dis donc.
Chef du service IMO de BFM Business. Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane.
Astrid, une banque française a annoncé il y a quelques jours qu'elle supprimait le questionnaire médical lors de la souscription d'un prêt immobilier. Alors si on regarde dans le détail, ça ne concerne que les clients de la banque qui ont leur revenu, je crois, domicilié.
Exactement, et cette banque, c'est le Crédit Mutuel, hein, citons-la. Voilà, qui a annoncé en plein débat sur la résiliation à tout moment de l'assurance de prêt qu'elle allait donner ce cadeau à tous ses clients fidèles, puisqu'on parle de clients qui ont leur revenu domicilié depuis plus de 7 ans au sein du Crédit Mutuel et qui ont moins de 62 ans et qui ont un emprunt de moins de 500 000 euros également. Ouais. Il y a quand même plusieurs conditions.
Client fidèle, ça veut dire qu'elle les connaît déjà. Donc s'il y a des problèmes médicaux ou un profil très particulier, la banque en a déjà connaissance.
Logiquement, en effet, là, c'est toute une autre question. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait la banque de toute la data qu'elle a, en fait, tous les revenus, s'ils sont domiciliés depuis 7 ans, si elle voit absolument tout ce qui se passe, toutes les dépenses, notamment de santé. Est-ce que demain, le client, finalement, qui aura 61 ans et qui va emprunter 400 000 euros et qui a des gros, gros problèmes de santé, est-ce qu'on va vraiment, vraiment, vraiment lui prêter de l'argent ? Voilà, ça, c'est une autre question, mais en tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien.
L'autre question, quand même, Astrid, c'est le Crédit Mutuel dit c'est un coût pour nous, ça va représenter 70 millions d'euros.
C'est rien.
Oui, alors effectivement, en rapport au reste, ça peut paraître pas grand-chose, mais surtout, l'autre question, c'est de se dire, si effectivement, ça représente une manne considérable de gens qu'on va assurer, alors qu'ils n'auraient peut-être pas pu décrocher d'assurance autrement, ou alors qu'ils auraient eu des grosses, grosses surprimes compte tenu de leur état de santé, est-ce que quand même, à terme, le Crédit Mutuel, bon là, ils disent que non, mais est-ce que à terme, le Crédit Mutuel et d'autres banques, si elles étaient tentées de proposer la même chose, pourraient pas faire porter ce risque-là sur tous les autres emprunteurs, y compris ceux en bonne santé ? Est-ce que c'est pas ça, le risque ?
Si, alors ça c'est un autre sujet également, c'est est-ce que en effet ce risque qui ne sera plus porté demain par le Crédit Mutuel et par tous ces clients malades, donc ce pourquoi l'assurance existe en fait, c'est-à-dire ceux qui ne paieront plus pour leur profil, pour leur risque, est-ce que demain ce ne seront pas les jeunes profils qui ont déjà des problématiques, eux, complètement différentes, notamment qui ont très peu d'apports pour emprunter, qui n'ont pas de patrimoine en face, si jamais la banque est un petit peu réticente. Voilà, ça, c'est un vrai problème. C'est est-ce que les jeunes ne vont pas payer, finalement, cette facture ? Et est-ce que ça ne va pas leur poser d'autres problèmes ? Vous avez toujours les problèmes de taux d'usure, etc. Donc, si, ouais, c'est une vraie question.
Et l'autre, juste pour... Et Stéphane insistait beaucoup sur le fait que c'était que pour les clients fidèles de la banque. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quand même cette volonté justement du Crédit Mutuel en l'occurrence par cette annonce très intéressante mais aussi très marketing de garder quand même captif un paquet de clients quand même.
Ah, c'est un outil marketing mais de génie. De génie.
Et par rapport aux assureurs alternatifs, c'est quelque chose qui est de nature à plomber un peu cette ouverture du marché à la concurrence qu'on peine à obtenir aujourd'hui.
Alors oui, par rapport aux alternatifs, mais vous avez aussi une grosse problématique autour du courtage en crédit immobilier, c'est-à-dire que si demain toutes les banques se mettent à dire, moi, tous mes clients fidèles, je ne leur fais plus remplir de questionnaires de santé. Qu'est-ce que va devenir le courtage en crédit immobilier si demain, en fait, toutes les banques, leur stratégie première, c'est de garder leurs leurs propres clients captifs sur 7 ans en plus. Donc c'est énorme. Donc ça met en péril le métier du courtage, surtout le métier du courtage en crédit immobilier, puisqu'au final, en délégation, on aura toujours tous les autres clients. Donc ce sera jamais un gros problème. Maintenant, pour rester 7 ans dans une banque, il faut quand même y aller. Si demain, il n'y a plus que les clients qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes de santé qui restent dans les banques, qu'est-ce qui va en devenir aussi? Vous avez quand même la convention ERAS qui existe, qui est là pour réguler tout ça, justement, pour aider s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. C'est une convention qui, là, tous les ans, qui réfléchit à comment ouvrir le crédit à tous. Comment arrêter de surtaxer trop les malades, comment régler aussi ces problématiques de droit à l'oubli pour les femmes qui ont un cancer du sein, les hommes, enfin bref, voilà, qui fait un travail monumental. Qu'est-ce que va devenir cette convention-là, qui fait un travail objectif, si demain toutes les banques, utilisent des outils marketing super puissants juste pour fidéliser de la clientèle. Voilà.
Je vous sens très critique toutes les deux. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas un premier pas?
Si, tout à fait.
Avant peut-être une ouverture beaucoup plus large, c'est-à-dire à l'ensemble des clients de la part du Crédit Mutuel, mais aussi peut-être montrer l'exemple pour que les autres banques fassent la même chose.
Tout à fait. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même 40% des risques aggravés de santé d'un niveau 3, c'est-à-dire des très grands malades qui sont assurés par 12% du marché, donc par la délégation. Donc en fait, l'ADN de la banque, au départ, c'est absolument pas de porter le risque. L'ADN de la délégation d'assurance, c'est d'assurer des personnes à la base qui n'étaient pas assurables par les banques. Donc déjà, il faut savoir que les banques, elles portent assez mal le risque, en général. Donc, elles ne le feront pas, elles ne le généraliseront pas, ce sera trop dangereux, je pense que ça va les dépasser. Et puis, on va en venir là, exactement comme on disait tout à l'heure, à avoir des banques qui vont assurer plus que des profil à risque et qui feront plus le reste, donc elles feront plus leur métier en fait. Donc oui, il faut être sceptique. Oui, demain, à mon avis, d'autres banques mutualistes vont le faire, certainement en disant mais moi c'est pas 7 ans de revenus, moi ce sera 5, et puis l'autre ce sera 4, et puis voilà, et puis quand tout ça se sera passé, on reviendra au débat initial, et puis voilà.
Alors, en parallèle de cette annonce, autre évolution intéressante, on peut désormais résilier son assurance emprunteur de manière beaucoup plus flexible qu'auparavant.
Alors, on ne peut pas encore le faire.
On va.
On ne peut pas encore le faire, surtout qu'il y a un an de mise en vigueur, hein, une fois que la loi est adoptée.
Oh, Astrid, on ne va pas. Mais, non, cette fois, pour le coup, on l'a, le truc.
Ça a déjà capoté après même le vote en séance publique. Mais bon, a priori, là, justement, en effet, donc, c'est une loi qui, pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, donc ça va un petit peu au-delà de la résiliation à tout moment et sans frais. Puisque pour rappel, pour l'instant, vous pouvez en changer quand vous voulez la première année ou chaque année à date d'anniversaire, avec un préavis de 2 mois. Enfin bref, ça c'est tout un... Voilà, donc c'est très...
Et puis si la banque est avec...
voilà, exactement. Et les 6 sont assez nombreux. Donc c'est très facile non seulement de louper le coche de la date d'anniversaire, de repartir pour un an, et puis tant bien même que vous êtes dans les temps, eh bien, vous allez rencontrer plein de problèmes. Et donc cette loi, portée par la députée Patricia Lemoine, elle a non seulement pour but donc de donner cette résiliation infra-annuelle, mais elle a aussi pour but de rendre beaucoup plus transparent les refus des banques. Elle essaye d'encadrer les délais. Les banques n'ont plus que 10 jours pour faire signer des avenants, etc. Il y a des sanctions aussi qui sont cette fois-ci inscrites dans le marbre. Donc, peut-être que ça ira au-delà et ça va vraiment simplifier. Donc, maintenant, ça va passer en lecture au Sénat en janvier. Et maintenant, notre seul ennemi, c'est le calendrier, en fait.
Ouais, alors, et au-delà du calendrier, c'est même si vous dites que maintenant les banques sont mieux encadrées, etc., moi j'ai vu votre communiqué, je le trouvais très intéressant, sur au démarrage, le texte de la députée. Et disait que pour un refus de la banque, il fallait que ce soit avec
exhaustif.
de manière exhaustive, avec des arguments très précis, motivés, etc. Et donc du coup, ça finalement, ça a disparu. Et vous disiez, la problématique qu'on a notamment aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les banques trouvent toujours un prétexte et multiplient les courriers. Exactement. Alors l'enjeu, c'était évidemment de dépasser la date limite quand on pouvait résilier qu'à la date anniversaire du contrat. Mais pour autant, est-ce que ça aussi, on ne se rend pas bien compte, mais ça peut freiner ce qui est apparaît aujourd'hui comme une grande ouverture à la concurrence et qui va en fait être, j'ai envie de dire, mais tellement compliqué que beaucoup d'emprunteurs vont laisser tomber. C'est-à-dire, au premier refus de la banque, tant pis.
Ouais, exactement. Ce mot exhaustif, il était assez important. Et voilà, et justement, c'est pour ça aussi que les opposants qui sont opposés à ce mot, ils ont une très bonne raison de le faire. Ils n'avaient aucun intérêt de s'opposer à ce mot.
Ouais.
À part dire, je ne sais même plus quel prétexte qu'ils ont trouvé, ils en trouvent toujours des fantastiques, mais voilà, ils se sont opposés au mot exhaustif.
Ce qui est drôle quand même, voilà. Parce que c'est rarement péjoratif, exhaustif.
Exactement. Donc c'était en disant, ça n'a aucun intérêt dans cette loi, etc. Donc il a été remplacé par motivé et... explicite,
voilà. Un truc
voilà. Mais en effet, oui, ça a été une perte pour nous, parce qu'on sait très bien que forcer l'exhaustivité du refus, ça veut dire avoir une liste de refus très claire, et puis on peut ensuite, nous, en tant que courtier, opérer intelligemment.
Et discuter point par point, voilà. Et pas avoir un nouveau courrier. Exactement. Qui s'enchaîne
et décourager
pour un autre.
Le client, etc. C'est pour ça que cette loi, en fait, tant bien même qu'elle passe, elle va pas bouleverser le marché, on le sait maintenant. On le sait, Bourquin aurait pu bouleverser le marché, ça ne l'a pas fait. Donc, ça ne va demain, on ne va pas se retrouver avec un marché à 50-50. On le sait pertinemment. Le but, c'est juste de simplifier la donne. Et ces petits mots-là, c'était censé être important pour le faire, mais bon, c'est pas grave. Le combat n'est pas perdu.
Merci Astrid. Astrid Merci. Cousin, porte-parole du site magnolia.fr. Marie-Cœur de Roy, on se retrouve demain. On parlera de...
On parlera de mon week-end. J'ai passé le week-end à Lisbonne et j'avais envie d'en parler avec vous. C'était pas un week-end touristique, hein. Je suis allée avec la Fédération Française du Bâtiment et le pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter mon week-end de touriste à Lisbonne.
Demain matin à 10h15. Merci beaucoup à toutes les deux. À suivre dans cette prochaine demi-heure, un point sur les marchés. On parlera évidemment du variant Omicron dans la polémique de Nicolas Dose. Et puis, on parlera fiscalité. Quelles sont les mesures à mettre en place avant l'élection présidentielle? Rendez-vous pour en parler à 10h45. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
La Bourse de Paris rebondit après le décrochage de vendredi. On avait perdu 4,75% sur le CAC 40, on gagne actuellement 1%. On va en parler avec nos deux traders, Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour à tous les deux. Andrea, on va commencer avec vous. 1% de hausse, c'est un rebond assez limité malgré tout par rapport au décrochage de vendredi.
Ouais, c'est assez limité, ça a été compliqué. Alors on a eu un rebond qui s'est fait directement à l'ouverture avec un gap à la hausse, et puis après derrière on a longtemps hésité, on a failli revenir sur les 6750, on a rebondi légèrement au-dessus, et là on repart à nouveau de l'avant, mais on sent que c'est quand même globalement assez timide ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement de vendredi, il a été assez violent, hein, sur le marché. La baisse, elle a été très très marquée. Elle s'explique, hein, par différentes raisons. Déjà, c'est le positionnement global des marchés, hein. On est sur des marchés qui sont sur un trend long à la hausse, hein, qui est très important, qui est un des plus gros qu'on ait jamais connu. On a aussi la période à laquelle ça s'est passé, donc la période de Thanksgiving avec une liquidité qui était très faible sur les marchés. On est aussi en plein dans une discussion autour justement d'un changement de cap des politiques monétaires des banques centrales. Donc du coup, ça a ajouté, on va dire, pas mal de craintes sur le marché. Ça a nourri justement toutes ces craintes et c'est venu dérégler tout le schéma dans lequel on était rentré. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a une tentative un petit peu de revenir sur quelque chose d'un peu plus normal, en tout cas de tenter de se stabiliser. Ça serait déjà une première étape. Alors se stabiliser, certes, un cran au-dessus, mais voilà, pour le moment en tout cas c'est difficile de voir clair, en tout cas dans ce marché. C'est le rebond qu'on observe ce matin, il signifie pas du tout que le mouvement il est achevé et que du coup on va repartir sur une dynamique haussière rapidement, venir combler le gap qui a été ouvert la semaine dernière. Tout ça, ça paraît encore très tôt. Le gros problème qu'on observe aujourd'hui, c'est encore une fois le manque de visibilité qu'on voit. On n'a pas encore de visibilité sur ce nouveau variant. Alors, il y a plusieurs échos. D'un côté, l'OMS qui dit que le risque est très élevé. De l'autre côté, on a des experts qui se prononcent et qui disent qu'a priori, les vaccins seraient efficaces, que le variant n'est pas plus virulent que le variant Delta qu'on a aussi connu et qui avait perturbé légèrement aussi les marchés. Donc aujourd'hui, ce manque de visibilité qu'on a peut perturber un petit peu les marchés, ou en tout cas devrait nous maintenir sur un niveau de volatilité un peu plus élevé que celui qu'on a pu connaître sur les semaines précédentes. Et donc du coup, on devrait avoir des mouvements erratiques et quand même pas mal d'incertitudes. On va avoir aussi beaucoup d'éléments qui vont être diffusée tout au long de la semaine. On aura les interventions de banquiers centraux, on aura Jérôme Powell qui va intervenir aujourd'hui, on aura aussi des données macroéconomiques, on pense notamment au rapport sur l'emploi en fin de semaine. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir s'ajouter, et puis on va suivre évidemment en fil rouge toutes les nouvelles qu'on peut avoir au niveau de ce variant, à quel point il sera virulent, à quel point il peut dérégler les économies. On a vu qu'il y avait pas mal de pays qui avaient pris des décisions de fermeture des frontières, notamment le Japon, lui, qui a carrément complètement fermé ses frontières. Donc on sait que justement, si on rentre dans une phase de fermeture des frontières et de mesures restrictives importantes, ça peut dérégler encore plus les chaînes d'approvisionnement, donc ça peut avoir un impact aussi sur l'inflation. Donc tout ça, ça, voilà, ça crée, on va dire, un espèce de flou et une incertitude sur le marché qui est rarement très bonne. Pardon, et puis encore une fois, c'est vrai, il faut le rappeler, on était sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus, on reste sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus, et voilà, ce mouvement, encore une fois, s'est fait avec une liquidité qui était quand même relativement faible, très faible même. Donc voilà, il faut voir comment le marché va se comporter cette semaine. Il évoluera évidemment au gré des informations qu'on aura encore une fois au fil de l'eau. Mais encore une fois, il devrait y avoir beaucoup d'incertitudes malgré le rebond qu'on observe aujourd'hui. Il faut rester vigilant.
Jean-Louis Cussac, si on regarde les indices, on a évidemment un rebond. Si on regarde après le détail des valeurs, on voit bien que celles qui ont pris un gros coup vendredi n'ont pas vraiment rebondi. Air France KLM perdait pratiquement 10%. Le titre est en hausse ce matin de 1,7%. Airbus perdait 11,5% vendredi. La valeur gagne 0,7%. Pareil pour ADP qui ne progresse que de 0,7%. On voit bien que sur certaines valeurs, le risque il est extrêmement présent.
Oui, parce que les recommandations, globalement, c'est de réduire les positions sur le secteur du tourisme, des voyages, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal, puisque, comme l'a dit Andrea, l'incertitude est quand même assez forte pour la suite des événements. Maintenant, le marché il est revenu, évolué, entre les mêmes limites que vendredi durant toute la journée. Moi, ce matin, le 6750 a fonctionné. Moi, je travaille 6750, 6850... une zone d'aller-retour. Alors, bon, c'est toujours pareil, hein. On fait à peu près ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'écarts à aller attraper là-dedans. On a plus d'1 milliard d'échangés déjà ce matin. Beaucoup. Le volume, c'est vraiment l'arbitrage. Un cash futur. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'interventions sur les indices, sur les futurs, pour se protéger ou pour peut-être faire des moyennes plus rapidement. Ou pour entrer dans le marché, hein. Parce que moi je vous disais, les gérants attendent au moins 6750 ces derniers temps. Alors, ils ne se sont pas précipités vendredi. Il faut pas rentrer comme ça quand c'est un peu la panique générale. Encore que c'était pas non plus la folie. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils vont commencer tranquillement, c'est possible. Donc on a cet arrêt quand même, hein, autour des 6750 ce matin. Les marchés sont plutôt en mode attente, si vous voulez. Ils marchent sur des œufs. Si vous voulez, les marchés qui ont un caillou dans chaque chaussure. D'un côté, c'est Omicron. De l'autre côté, c'est l'inflation. Avec une boussole qui est un peu cassée. Et à quoi les marchés se raccrochent, comme d'habitude? Heureusement, il y a les banques centrales qui sont là pour indiquer le chemin. Alors, ils ne parlent pas, évidemment, pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va rester dans l'esprit. Dieu va nous sauver. Donc, jusqu'à quand, ça, on ne sait pas. Mais en attendant, c'est comme ça. Donc, moi, je travaille cette zone. La volatilité implicite à 24 permet de faire des stratégies vendeuses. On peut tenter de faire des spreads. Bon, on sait que c'est toujours dangereux. J'aurais Delta, il faut savoir le faire. Voilà, il fallait se protéger du week-end, si vous voulez. Donc, le marché a baissé vendredi hors séance. Puis ce matin, parce que ce qu'on redoute le plus le marché, c'est le confinement. Donc, pas de confinement en France, évidemment, c'était à peu près certain, en Allemagne, tout ça. Donc, voilà, le marché est rassuré. Maintenant, il n'y a pas de quoi non plus être euphorique. On devrait assez rapidement avoir des nouvelles sur Omicron. BioNTech a dit qu'ils étaient capables de donner des informations précises d'ici 15 jours. C'est assez rapide, quand même. Bon, il n'y a pas de raison... Je suis hyper optimiste, bien évidemment, mais je suis un peu optimiste, quand même, comme je l'étais vendredi, à savoir, faut pas paniquer, faut tenter des achats. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire des écarts. Il ne s'agit pas, en tout cas, de passer vendeur. Moi, je prends toujours mon niveau long terme, hein, parce qu'il est éloigné. Mais, si vous voulez, on a eu une hausse tellement extraordinaire depuis des mois et des mois... Si tu veux, c'était 6540 cassés pour se retourner à la baisse. Je sais, c'est loin, mais c'est proportionné, si vous voulez, à la hausse qu'il y a eu précédemment. Donc on a eu des stops temporaires, ça a évité vendredi d'acheter trop vite, par exemple, il fallait pas se précipiter sous 6950, fallait attendre. Bon, là, il n'y a rien de particulier, si vous voulez, il n'y a rien de méchant. On voit que on a des acteurs de la gestion qui sont toujours à la recherche de bonnes idées. Bon, faut pas paniquer. Enfin, faut vraiment pas trop s'inquiéter. Faut être prudent. Voilà. Et moi, en tant que trader, j'essaye de scalper la zone dont je vous ai parlé, et puis de travailler la vol implicite qui est à 24. Elle est plus à 14. Elle est à 24. Ça change évidemment beaucoup de choses. Ça ouvre des possibilités, mais très différentes avant d'acheter l'option. Donc, si vous voulez, on en profite aujourd'hui. Maintenant, on va plutôt avoir des stratégies vendeuses, mais il vaut mieux les caper par des spreads.
Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance. Merci à vous également, Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. 10h40, la polémique, Nicolas Dose.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
La cinquième vague se précise, et à la question est-ce que ça menace la reprise économique, j'imagine que la réponse est oui.
C'est pas bon, mais on n'est pas menacé au sens de menace. Il y a évidemment le secteur de l'aérien qui va réagir très mal. On l'a vu, Air France KLM fait moins 10 vendredi et puis ne rebondit pas tant que ça ce matin. Et puis le tourisme va évidemment être celui, le secteur à nouveau qui va être en grand danger. Les marchés financiers ont bu une petite tasse vendredi. Bon, ils sont à des niveaux historiquement élevés, ces marchés financiers. Donc là encore, il n'y a rien de dramatique. En plus, on sait qu'on a toujours des mouvements de liquidité un peu plus importants, des retraits de liquidité un peu plus importants quand arrive la période de la fin de l'année. On n'est pas encore à la fin de l'année, mais en tout cas, ça se dessine. L'once d'or, c'est pas particulièrement envolé. Moi, je l'ai à 1 760 $. Je sais pas à combien on est là, mais ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Et on a vu par ricochet que c'était les marchés obligataires, les obligations d'État qui avaient profité justement du mouvement de retrait sur les actions. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux éléments qui se sont produits depuis maintenant 3 jours.
1 798 $ exactement.
Voilà. On n'est pas sur le phénomène de la valeur refuge qui s'envolerait de manière démesurée.
Alors la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y a un risque qu'on se retrouve un an et demi en arrière, comme en mars 2020 ou en novembre 2020, c'est-à-dire reconfiné à la maison?
Aujourd'hui, je dis non, parce qu'aujourd'hui, on a le vaccin. Le vaccin, rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il n'est pas efficace contre ce nouveau variant, le vaccin. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'à chaque vague d'épidémie, il y avait moins de morts qu'à la vague précédente. Donc, en termes de pression hospitalière, on n'est pas devant les mêmes difficultés. Après, le pass sanitaire, mine de rien, il permet d'imaginer qu'on ne va pas reconfiner. D'abord, je pense que reconfiner, c'est socialement impossible, inacceptable. Même dans des pays réputés plus cléments vis-à-vis des autorités comme les Pays-Bas, il y a des émeutes quand on parle de confinement et de restrictions pour la population. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait une récession si on continue à laisser les gens travailler. Après, le télétravail est quand même quelque chose qui s'est installé. On sait faire aujourd'hui, si vous voulez. C'est plus une découverte. Plein d'entreprises sont très rodées avec ça. On a des carnets de commandes qui, au moment où nous parlons, sont bons, un niveau d'investissement qui est bon, un niveau de consommation qui est bon. Et puis on a constaté quand même, et ça c'est chiffré aujourd'hui, que chaque vague a moins affecté l'économie que la vague précédente. La première, mars-avril 2020, on va amputer le PIB de 25%. Il y aura la suivante en novembre 2020, on va être sur 7% d'activité par rapport à l'avant-Covid. Et pour la dernière, le dernier confinement, avril 2021, on est à 5%. Voilà. En plus, il y a cette montagne d'épargne, de surépargne par rapport à l'habitude, qui devrait nous normalement continuer de nourrir correctement la consommation. Et donc j'évacue pour l'instant l'idée que ce qui va arriver va ressembler à mars-avril 2020.
On voit malgré tout des restrictions, des confinements un peu partout en Europe. Il y a une conséquence pour les personnes, mais aussi pour les échanges de marchandises.
Alors, c'est effectivement par rapport aux précédentes vagues, là, il y a un phénomène de repli sur soi, de quantité de pays avec des fermetures de frontières. Elle est là, la principale inquiétude. UBS a fait une projection sur les 9 pays aujourd'hui qui ont pris des restrictions très dures, à commencer par l'Autriche, qui a été évidemment le premier, on s'en souvient. Ils considèrent que si on va au bout des restrictions avec des confinements durs, on peut amputer de 0,7 à 0,8 points la croissance de la zone euro pour le quatrième trimestre. Et objectivement, le risque majeur vient de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est quand même très durement touchée et ça reste la première économie de la zone et le moteur. Voilà. Mais après aussi, si on veut des raisons de se rassurer, on peut se dire que s'il y a une consommation qui est un peu freinée, et notamment une consommation d'énergie qui est freinée, bien on va avoir un phénomène de baisse des prix des carburants. D'ailleurs, on voit que le baril de pétrole, je ne sais pas combien il est actuellement, 75 $, un truc comme ça, et il était à 82 $ jeudi dernier.
Donc, le Brent est à 75,46 voilà. Et le WTI américain 71.
Et on était à 82 $ pour le Brent c'était jeudi dernier. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'au moins il va y avoir un phénomène d'apaisement sur la fameuse inflation, et donc c'est à la limite un aspect un peu positif. Et puis si l'inflation tend à se calmer, ben, ça relâche aussi la pression pour les banques centrales, qui sont un petit peu moins poussées à devoir donner des virages de politique monétaire que l'on ne sait pas trop assumer. Mais maintenant, la seule question qui vaille pour réussir à analyser vraiment de la reprise et la solidité de la reprise, c'est de savoir si le vaccin résistera ou pas, si le variant résistera ou pas au vaccin, et si la réponse était positive, là on risquerait d'avoir effectivement un phénomène de perte de confiance qui, lui, précipiterait un ralentissement de manière certaine.
Mais vous savez ce qu'on dit, jusqu'à preuve du contraire.
Mais jusqu'à preuve du contraire, voilà. C'est la question, c'est le vaccin. L'arme, c'était le vaccin, le plan de relance, c'était le vaccin. La question, c'est la résistance, c'est l'efficacité ou pas du vaccin par rapport aux variants.
Merci beaucoup, Nicolas Dose. J'ajoute ce commentaire de François Villeroy de Gallo ce matin, le gouverneur de la Banque de France, qui estime qu'il n'y aura pas de révision massive de la part des prévisions de la part de la Banque de France pour ses prévisions de croissance pour cette année. On en parlera avec nos invités du face-à-face tout à l'heure à partir de 11h.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Il reste un mois avant la fin de l'année 2021, quelques semaines pendant lesquelles on peut encore mettre en place des mécanismes de défiscalisation. On va en parler avec Christian Fontaine, directeur de la rédaction adjoint au magazine Le Revenu. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Stéphane.
Co-fondateur de Net Investissement. Christian d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur les nouveautés 2021 en matière de défiscalisation ?
Alors bien sûr, tout d'abord le plafonnement à la source, et ça il faut bien le préciser, hein, ce nouveau mode de collecte de l'impôt n'a pas modifié, je dirais, le montant de la douloureuse, et donc n'a pas modifié, et vous en faisiez référence Stéphane il y a quelques secondes, je dirais le mode de fonctionnement pour bien défiscaliser. Il faut toujours, pour payer moins d'impôts l'année prochaine, agir avant le 31 décembre, vous avez raison. Les nouveautés 2021 en matière de défiscalisation, il y en a principalement trois. D'abord, si vous envisagez de changer de voiture et que vous installez une borne de recharge pour véhicule électrique à votre domicile, résidence principale ou résidence secondaire, vous avez le droit à un crédit d'impôt de 300 euros, c'est toujours bon à prendre. Deuxième nouveauté, si, comme des millions de Français, d'ici au 31 décembre, vous avez décidé de faire un geste en faveur des plus démunis, des plus défavorisés, un don à une association caritative, eh ben, sachez que la fameuse déduction Coluche peu ou prou a été doublée. Donc, le plafond a été monté à 1 000 euros. Vous versez 1 000 euros au profit d'une association d'aide aux personnes en difficulté. Eh ben, in fine, comme la réduction d'impôt est de 75%, ça ne vous coûtera que 250 euros.
Et on le rappelle aussi, 75%, c'est un pourcentage qui est plus élevé que ce qu'il était il y a quelques années.
Voilà, alors c'est surtout le plafond, effectivement, par rapport à il y a 10-15 ans. Mais sinon, la vraie nouveauté, c'est qu'avant, vous pouviez défiscaliser à hauteur de 500 euros, mais autour de 500 euros, maintenant, c'est 1 000 euros. Et puis, autre nouveauté aussi, toujours restant dans ce domaine-là, les dons au culte profitent d'une réduction d'impôt qui est passée de 66 à 75% dans la limite de 554 euros. Et là, je vous vois toucher vos papiers, Stéphane, vous impatientez, vous avez raison, parce qu'on va reparler des placements au cœur, donc de l'émission. Et oui, là aussi, la nouveauté en matière de défiscalisation, le taux, si vous versez vous alimentez un FIP.FCPI, c'est en fait des actions non cotées risquées, ben, le législateur vous accorde une réduction d'impôt qui avant était égale à 18% de vos versements et maintenant c'est 25% pour les versements que vous effectuez avant la fin de l'année. On va en reparler, hein, parce qu'attention, c'est quand même, donc c'est, certes, il y a la carotte fiscale, mais c'est aussi risqué, c'est du non coté, attention aux frais, diversifiez, investissez sur plusieurs fonds, sachant que votre argent est immobilisé fiscalement pendant 5 ans, en réalité pendant plutôt 7 ou 8 ans, le temps que les participations soient vendues.
Stéphane, les principaux outils intéressants en matière de défiscalisation ?
Alors, les principaux outils, d'abord, je vais faire un petit rappel de conseiller en gestion de patrimoine. Il y a deux types de possibilités de réduire ses impôts au final sur la douloureuse, comme l'expliquait Christian. Vous avez des outils d'investissement qui vous donnent une déduction d'impôt qui a donc un impact sur le montant des revenus que vous déclarez. Et donc, comme vous allez déclarer moins au final, une fois que votre tranche marginale va s'appliquer, vous aurez, in fine, une réduction d'impôt. Et puis, vous avez aussi ces mécanismes qui vont directement agir sur l'impôt et minorer son montant, qui sont des réductions d'impôt. Donc, évidemment, ce sont deux choses très différentes. L'avantage étant plus agressif d'un point de vue réduction lorsqu'on va directement minorer la réduction d'impôt. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans l'ordre, naturellement, Christian l'a touché du doigt, aujourd'hui, ce qui vous reste à faire à un mois de la fin de l'année, ce ne sont que les placements à risque, donc les FCPR, donc les plus connus, FIP, FCPI. On va éviter de parler de cinéma parce que c'est trop tard pour les bonnes enveloppes. On va éviter de parler des investissements Girardin, Domtom industriel, parce que c'est trop tard pour les bonnes enveloppes. Donc en fait, il vous reste les FIP, les FCPI, l'idée, on investit dans l'innovation ou on investit en proximité et on a la fameuse réduction d'impôt de 25%. Et attention, je le dis tout de suite, puisque c'est le sujet de notre discussion qui va suivre, évidemment. Les 25% sont-ils garantis l'année prochaine ou pas? Ben, ils sont encore sûrs au 31 décembre 2021 et ce sera immédiatement réductible pour vos prélèvements de 2022. Donc dans l'immédiat, on fait ça et on regarde ensuite éventuellement pour figer des investissements immobiliers, mais on va en parler, et le PER avant la fin de l'année, puisque tout versement sera possible.
Christian Fontaine.
Ah voilà, effectivement, le fameux PER, parce qu'il ne faut pas faire peur non plus aux contribuables. Tous les investissements de défiscalisation ne sont pas risqués. Et il y a le fameux PER, le plan d'épargne retraite institué par la loi PACTE de 2019, et plus tout à fait neuf, mais il est encore assez récent. Et je dirais que c'est le missile en matière de défiscalisation d'ici la fin de l'année. Hein, le Pinel, par exemple, c'est très efficace aussi, mais vous commencez à défiscaliser en Pinel, donc ça, c'est l'investissement d'un logement, le jour où vous réceptionnez le logement. Donc là, c'est un peu tard, quand même. Donc, d'ici la fin de l'année, par contre, vous pouvez souscrire et alimenter un plan d'épargne retraite. Alors, pourquoi c'est un super dispositif anti-impôt? D'abord, parce que vous savez que depuis quelques années, l'ensemble des avantages fiscaux en France sont plafonnés, peu ou prou, à 10 000 euros par foyer fiscal. Et là, le fameux PER, l'avantage fiscal induit, est hors mécanisme de plafonnement. Premier dispositif. Deuxième dispositif, pour un cadre qui gagne bien sa vie et qui alimenterait un PER à hauteur de 50 000 euros, c'est quand même quelques 20 000 euros d'impôts en moins. Efficace. Clignez les yeux, vous avez raison. Troisième avantage. Un produit de défiscalisation doit s'inscrire logiquement dans votre patrimoine. Et là, le gros avantage avec le PER, quel est l'objectif du PER? C'est pas uniquement de vous réduire vos impôts, c'est un avantage induit. Le vrai objectif, c'est quand même de vous constituer un complément de retraite. Or, tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, les cadres qui ont 30 ou 40 ans, ils vont partir avec un montant de retraite qui sera peu ou prou égal à 50% de leur dernier salaire d'activité. Donc, ça répond aussi à un besoin de société et à un besoin au niveau de l'homo economicus. Alors, tout n'est pas évidemment parfait, attention aux frais, et puis votre argent est bloqué, donc il faut pas tout mettre jusqu'à la retraite. Non, il ne faut pas mettre la totalité de votre épargne dans ce placement.
Christian qui me propose de mettre 50 000 euros sur mon PER, je pense qu'il m'a pris pour Rihanna. Il s'est trompé.
Bon, Rihanna, elle met un peu plus que ça, Stéphane.
Stéphane, je parlais de la fin de l'année. Il y a une date beaucoup plus importante. C'est l'élection présidentielle. Parce qu'on attend un tour de vis fiscal. On n'en connaît pas encore l'ampleur, mais je crois que tout le monde est d'accord sur ce qui va nous arriver.
Alors, d'abord, vous avez de la chance si vous avez des gens qui peuvent vous le garantir. On ne sait jamais, c'est ça. Non, mais c'est ça tout le charme, Stéphane, de la France depuis 40 ans ou 30 ans, grosso modo. C'est ça le charme, c'est qu'on est toujours surpris par l'ingénierie fiscale de la nouvelle majorité qui arrive derrière. Ce n'est pas la présidentielle, c'est surtout ce qui suit derrière les législatives qui sont importantes, puisqu'en France, on ne gouverne, on ne préside pas. C'est hyper important de le rappeler. Bon. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de le dire. Oui, avant le 31 décembre, il faut faire des petites choses pour finalement réduire la douloureuse, je le redis, de 2021. Mais surtout, pensez bien, alors là, ça ouvre les perspectives de tous les dispositifs. Mais en France, il y a une spécificité. La date à laquelle vous faites votre souscription, si c'est un PER, ou votre investissement, si c'est de l'immobilier, que ce soit lorsque vous allez réserver un bien immobilier ou lorsque vous allez acter, donc devenir réellement propriétaire, ça parle à tout le monde. Ces dates-là peuvent être très, très, très importantes si dans 3, 6 mois, donc là, on serait plutôt à 6 mois, il y a un changement global de politique fiscale et qu'on revient en arrière. Parce que la France a quand même cette sécurité, la dernière qui nous reste à nous, conseillers en gestion de patrimoine, que remettre en question un dispositif de loi existant par décret est quand même très rare. Donc je conseillerais aux gens, y compris aujourd'hui, on est le 29 novembre, leur dire faites un investissement en loi Pinel immobilier pour défiscaliser sur 2021, c'est impossible, c'est trop tard, il n'y a pas de disponibilité immobilière de qualité, et vous n'aurez jamais le temps d'aller chez le notaire avant la fin de l'année et de vous faire livrer le bien. En revanche, plus tôt vous allez réserver, c'est-à-dire plus tôt vous allez vous engager dans le délai du code de la construction et de l'habitat pour pouvoir dire, bah moi j'ai réservé à cette date, même si vous passez chez le notaire dans 4 mois avec le délai bancaire, etc. Si jamais derrière il y a un changement, une remise en question, et ça va être le cas sur la loi Pinel, le durcissement des normes énergétiques, etc., vous aurez, vous, réservé et engagé votre réservation dans l'ancien système, c'est-à-dire celui dont on est sûr d'avoir les tenants et les aboutissants. C'est la même chose pour les FIP, FCPI dont je parlais. Il est prévu que le dispositif à 25% soit prolongé en 2022. Alors là, ça va encore plus loin, parce que c'est la Commission européenne qui doit se prononcer dessus. En général, ça prend beaucoup de temps, mais là, comme il y a une présidentielle, elle pourrait se décider à réagir plus tôt, donc on pourrait revenir en arrière, j'y crois pas une seconde, mais dans l'absolu, je suis obligé de dire aux gens, signez maintenant. Quand je dis maintenant, ça peut être avant le 31 décembre s'ils ont une problématique fiscale de cette année, mais surtout très vite pour éviter la mauvaise surprise au mois d'avril ou au mois de mai.
Christian, réaction, anticiper, c'est le maître mot.
Ah, bien sûr, anticiper, on est à 4 mois de la présidentielle, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, notre système fiscal, il a quand même une particularité, c'est qu'il y a des niches, et les niches sont nombreuses, et elles demeurent. Aux revenus, on les a un peu passées tout en revue, en tout cas une quarantaine dont peuvent profiter les particuliers. Il y en a 3 qui nous semblent particulièrement menacés à 4 mois de la présidentielle. D'abord, c'est l'exonération d'impôt sur la plus-value lorsque vous vendez une résidence principale. Il faut savoir que ça, aujourd'hui, il n'y a peu ou prou, il n'y a pas de conditions à remplir, hein. Donc c'est une exonération quel que soit le montant de la réduction, quel que soit le montant de la transaction, quel que soit le montant de la plus-value, quelle que soit la durée des tensions. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une résidence principale d'un logement et que vous envisagez de vendre parce que, voilà, pour déménager pour plus petit par exemple, eh ben, il ne faut pas hésiter, en tout cas si c'est des biens au-delà d'1 million d'euros, à vendre avant la présidentielle. Deuxième, je dirais, niche fiscale potentiellement menacée, c'est l'assurance vie. Là aussi, si vous envisagez d'alimenter vos contrats, ben, il faut le faire sans trop tarder. Au revenu, on ne pense pas le régime fiscal de l'assurance vie, tous les avantages fiscaux, notamment successoraux, vont disparaître. Par contre, il pourrait y avoir un alignement. Et ensuite, effectivement, et ça, voyez votre notaire, mais il y a un certain nombre d'avantages fiscaux liés à la transmission, des plus ou moins techniques, comme par exemple la purge des plus-values en cas de donation d'un portefeuille, d'un compte-titre, ou par exemple tous les avantages liés à la donation d'un bien à démembrement de propriété, tous ces mécanismes très intéressants, ben, il ne faut pas hésiter à les mettre en place avant la présidentielle.
Je vous entends l'un et l'autre en parler avec beaucoup de conviction. Est-ce que vous avez l'impression que les contribuables ont conscience de ces échéances et de la nécessité d'anticiper?
Alors, j'allais vous dire oui et non, Stéphane, parce que j'allais ajouter qu'il fallait faire attention aussi aux possibilités de démembrement, les avantages que vous avez quand vous achetez de la nue propriété immobilière en termes d'IFI et d'IR, etc., etc. Et oui, les Français ont toujours notion qu'il va se passer des choses lorsqu'une présidentielle arrive. Là, clairement, la grande majorité des Français, c'est pas qu'ils s'en fichent, Stéphane, c'est que ça ne va pas les toucher, parce que tout ce que vient de rappeler, en tout cas les 3 points que vient de rappeler Christian, ou si j'ajoute l'acquisition de nue propriété pour effacer son IFI, vous imaginez bien que ça va toucher une certaine catégorie patrimoniale des Français. Malheureusement, le ruissellement sur l'assurance vie, ce que je vois Christian qui hoche la tête et il a raison, pourrait toucher des gens qui ne devraient pas être pénalisé à ce moment-là. Parce que, grosso modo, c'est ça qui va se passer. Donc, je ne suis pas sûr que tous les Français ne dorment pas la nuit à cause de ça.
Par contre, il y a certains... La réforme fiscale pourrait potentiellement concerner tous les Français. Par exemple, il y a eu des tas de rapports sur les plafonds de défiscalisation sur le livret A. Vous voyez, aujourd'hui, on peut verser quelques 20 000 euros sur un livret A. Vous êtes 4 dans votre famille, ça fait 4 fois 20 000 euros. Est-ce que c'est encore de l'épargne populaire? Donc, même des petites choses comme ça, le plafond de versement sur un livret A, on pourrait très bien imaginer que ce soit revu à la baisse. Et là, ça concernerait quand même pas mal de gens.
Merci beaucoup à tous les deux. Christian Fontaine, directeur de la rédaction, adjoint au magazine Le Revenu. Merci à vous également, Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement, la Bourse de Paris. Toujours en progression, assez limitée par rapport au décrochage de vendredi. On gagne 0,6%. On en parle juste après la pause avec Thibaut François. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.